poule aux vanilles.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanilles.
Deux boules vanilles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Louise pour une nouvelle émission de Boule Vanille, votre rendez-vous estival sur Canal B du lundi au vendredi de 17h à 18h et en rediffusion du mardi au samedi de 8h à 9h. De Boule Vanille que vous pouvez également retrouver en podcast sur canalb.fr. Et aujourd'hui en ma compagnie, une émission en deux parties. Nous irons d'abord visiter l'atelier de typographie au plomb d'Yves Prié, poète et également créateur des éditions Folle Avoine, et en deuxième partie d'émission, de la musique. Je vous passerai des titres que j'aime, que j'agrémenterai de quelques suggestions. Alors pour commencer, un reportage dans l'atelier de typographie d'Yves Prié situé à Bédé, à l'ouest de Rennes. Il y a plus de 40 ans, Yves Prié y a créé les éditions Folle Avoine qui comptent aujourd'hui plus de 300 titres, parmi lesquels on peut trouver de la poésie, des livres d'artistes, des essais, des rééditions ou encore des traductions. Lui-même est un poète reconnu, il a publié deux recueils aux éditions Rougerie. Alors pour ces éditions, Yves Prié est également typographe, metteur en page et imprimeur. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce reportage. Yves Prié nous livrera sa vision du livre à travers une déambulation dans son atelier de typographie. On l'écoute.
Donc après, le plomb est emmené par le chariot et placé d'un tourne sur lui-même, avec la feuille, ça ancre sur le chariot.
Moi, j'ai commencé à m'intéresser, disons, à la typographie en 80. C'était un changement d'un peu de fonction, parce que j'en avais un peu assez de mon métier, et envie d'aller voir autre chose. Donc j'ai commencé à apprendre la typographie au plomb, tranquillement, avec un ami qui était typographe, Amsi, le peintre Amsi. Et j'ai mis le doigt dedans et j'y suis passé entièrement après. C'est-à-dire qu'après, en 1980, j'ai sorti un premier livre d'une poète, je ne veux pas dire poétesse, mais d'une poète qui s'appelait Heather Dolo, dont j'ai publié toute l'œuvre et qui m'a suivi pendant 30 ans. Et de fil en aiguille, les livres se sont accumulés. Au départ, j'ai voulu partir sur un catalogue de poésie, parce que c'était aussi dans l'air du temps, hein, c'est en rapport aussi avec des gens que j'ai connus, que j'ai rencontrés, entre autres mon éditeur Rougerie, René Rougerie, et puis quelqu'un qu'on connaît beaucoup moins maintenant, dont j'aime beaucoup parler pour rappeler sa mémoire, c'est Guy Lévis-Manot, qui a été connu pour être l'éditeur de beaucoup de surréalistes avant la guerre, et qui a lui-même une œuvre de poète assez importante et très belle, donc, que j'ai rééditée. Donc c'était tous ces gens-là qui se lançaient en parallèle d'une édition courante, industrielle, qui aussi réalisaient eux-mêmes leurs livres, et c'est vrai que l'idée m'avait intéressé. Et puis après, le catalogue s'est élargi. En fait, je me suis aperçu que la poésie m'intéressait, bien sûr, mais il n'y avait pas que ça, que je préférais aussi avoir un catalogue qui soit relié, qui soit plus ouvert. Donc la littérature générale m'intéressait. Donc c'est là où j'ai quand même publié quelques textes qui ont marqué au début, puisque c'était le premier texte dans cette collection-là que j'ai créé Signature. C'était un texte de Jarry, un inédit d'Alfred Jarry, qui était la dernière mouture que Jarry a voulu donner au cycle Ubu, qu'on appelait Ubu Intime, mais qui malheureusement n'a jamais été reconnu par les spécialistes la connaissent, mais il y a des querelles dans le monde Jarry, enfin bon, n'en parlons pas. Et après, c'est des lettres de bataille à Kaiwa aussi qui m'ont été proposées, et de fil en aiguille, j'étais amené à publier aussi le philosophe Georges Palante. Voilà, ça s'est élargi. Après, ça s'est élargi sur un catalogue de textes étrangers, parce que ce rapport à la littérature étrangère aussi m'intéressait. Et là, ça a été l'almanach poétique japonais qu'on a publié avec Alain Carvin, qui était traducteur du japonais. Alors que c'est la première expérience de traduction de cet almanach en France, alors que c'était publié en Angleterre et en Allemagne. C'est un peu comme ça aussi que j'ai vu la progression. C'est plus de faire confiance au hasard des rencontres que d'avoir des schémas très précis au départ. Voilà. Et publier ce qui me touchait, ce que j'aimais. Je concevais l'édition en même temps que la création des livres. C'est-à-dire ce rapport à la fabrication, pour moi, était aussi important que le choix des éditoriales. Et sans doute parce que aussi j'aime bien Ben, j'aime bien travailler manuellement, c'est tout, tout simplement. On conçoit que pour courir, il faille des bonnes chaussures, enfin, etc., pour toute activité physique. Et on oublie que l'œil, la lecture, il y a un muscle derrière. Et si la mise en page n'est pas bonne, il va se fatiguer ou il va être distrait. Moi, j'aime bien cette notion dans le livre qu'on appelle la typographie invisible. C'est-à-dire que si c'est bien fait, ça ne se voit pas. Le livre, c'est une suite de cahiers. Et donc, ça se conçoit comme du page à page, mais comme un cahier de 8, de 16 ou 32 pages. Donc, ça se conçoit dans un ensemble. Alors, c'est peut-être ça qui va être le plus difficile, mais moi, je crois qu'il faut maintenir, c'est pas cette tradition, il faut maintenir ce mode de fabrication. Parce qu'on a un livre, d'une part, qui est plus solide, un livre qui peut mieux s'ouvrir, et puis, je dirais que c'est un autre apport. Et pourquoi la typographie au plomb ? Ben, disons que bon, je préfère le plomb film, mais je préfère le plomb film et parce qu'il y a une consistance de la lettre quand on la touche. Et puis, économiquement, en 70-80, début des années 80, on trouvait du matériel typographique au plomb pour pas cher. Alors que c'était l'offset existait déjà, les machines offset n'ont pas la résistance du plomb. Je travaille depuis 40 ans avec la même machine. Alors la première étape, c'est la composition du texte, alors, qui peut être soit une composition manuelle, lettre à lettre, ce dont je parlais tout à l'heure, là, ce plaisir, enfin, pour moi, un réel plaisir, quoi, composer un livre tranquillement, lettre par lettre. La première opération, c'est mettre en page tout cet amas de plomb, hein, toutes ces lignes qu'on va avoir. On va avoir ce qu'on appelle des galets, hein, des galets de plomb. Et donc on va organiser les pages en fonction du plan, toujours en fonction du plan qu'on a déterminé. Et c'est ça l'intérêt aussi de la composition au plomb, c'est qu'on est obligé de réfléchir en amont. Et concevoir l'architecture du livre, alors que souvent sur l'ordinateur, on dit on y va. Et puis après, on oublie, on ne sait plus où on en est. C'est concevoir cette architecture du livre, réaliser toutes les pages, une par une, et puis voilà. Et une fois qu'on a les pages, et ben on peut passer à l'impression sur machine.
Alors là, je vois qu'il y a tout un tas de polices possibles, des tiroirs en bois,
ouais,
avec des noms de police,
ouais. Classique ah ben Bodoni Romain. Oui, qu'on retrouve d'ailleurs, hein, les polices, on va les retrouver sur l'ordinateur. Mais justement, ça aussi, pour moi, c'était quelque chose qui est important, c'est connaître l'histoire de la lettre. Parce que si on ne connaît pas l'histoire de la lettre, on n'arrive pas à bien déterminer les choix. On a des tas de polices sur l'ordinateur. Moi, je dis souvent, il y en a 90% qu'on peut enlever parce qu'elles sont pas belles, elles sont mal faites, et on n'en aura pas besoin. Par exemple, les Bodoni, les Plantin, les Garamond, ce sont les caractères classiques d'édition et qui ont été faits pour cette lecture, pour ce type de lecture. Alors, je pense que si on rentre dans une lecture sur écran, il y a d'autres paramètres qui vont entrer en jeu, mais là, c'est encore quelque chose qui était inventé, à mon avis. Les polices pour l'écran ne sont pas encore inventées. On copie, mais c'est finalement une évolution normale que les premiers caractères au plomb ont copié ce que faisaient les copistes. Et ça a mis énormément de temps, hein, après, je crois que c'est à peu près un siècle ou un siècle et demi, avant qu'on arrive à la définition du caractère, les Garamond, les Elsevier, etc. Et là, on rentre un peu dans le même phénomène. Bon, là, c'est tout, ce sont des évolutions techniques. En fait, j'aime ce processus de fabrication de livres au plomb, qui est aussi un processus plus lent encore que ça se discute beaucoup. Mais disons, on a le temps de rêver sur un texte quand on compose lettre par lettre.
Et donc après la composition, la mise en place des lettres, on passe à l'impression.
À l'impression. Alors l'impression qui peut être... Ben là, j'ai une machine manuelle, j'ai deux machines manuelles, mais ce qu'on appelle des presses à épreuve, qui sont faites pour des petits tirages, mais qui sont très pratiques. Et il y a une machine, ce qu'on appelle les machines à raies de cylindres, qui servent à faire les livres industriellement, j'allais dire. Alors moi, j'ai une machine qui date des années 50. Je pensais de l'user, mais je crois que c'est elle qui va m'user.
Le principe, après, il est descendu, aspiré, descendu sur un cylindre qui emmène la feuille, elle est réceptionnée derrière, et pendant ce temps-là, le plomb est emmené par le chariot, et quand le cylindre tourne sur lui-même, avec la feuille, ça ancre sur le chariot. Donc,
L'étape suivante, c'est l'assemblage des cahiers. Hein, puisque quand on tire un livre, là, ma machine, bon, c'est sur des cahiers de 8 pages. On peut y avoir des 16, des 32 pages, etc. Donc, les cahiers sont pliés et après, donc, assemblés. Donc, il y a l'impression, mais il y a tout ce qu'on va appeler le façonnage, c'est-à-dire la mise en forme du livre, c'est-à-dire qui comprend le pliage, l'assemblage et la relure. Et donc, le pliage, alors, en petite série, peut se faire à la main. Dans les imprimeries, le pliage était fait à la main.
Mais pour des tirages de combien de
livres? Des quantités de tirages qui pouvaient être importantes au départ, au 19e. C'était d'ailleurs souvent le travail des femmes. Les hommes étaient aux machines et les femmes étaient au pliage.
Tiens donc.
Tiens donc. Exactement. Ouais. Là, on va aller en haut pour voir la suite.
Là, on monte à l'étage de l'atelier.
Un livre qui est assemblé, prêt à être cousu. Alors, ben l'assemblage se faisait autour d'une table aussi à la main. Hein. On passait. Alors ça, c'est pour le disant, j'ai dire le processus artisanal que j'ai utilisé, mais maintenant les processus de façonnage sont complètement industrialisés. Alors l'intérêt, c'est qu'effectivement les boulots sont faits mécaniquement. J'ai dire l'inconvénient, c'est que ça consomme beaucoup de papier. Et puis si on fait des petites séries, c'est pas intéressant. Ouais. Même économiquement.
D'accord.
Ouais. Moi, si par exemple j'ai fait, si je voulais faire façonner industriellement un livre tiré à 500 exemplaires, il fallait que je le tire à 750 exemplaires. Je pouvais avoir 500 sûrs, comme je pouvais avoir 600. Parce qu'une machine qui est lancée, une fois qu'elle a, s'il y a un incident sur un cahier, c'est autant d'exemplaires de tout le livre qui sont foutus.
Et donc là, on a un livre qui est composé de plein de petits livrets, des cahiers de 8 pages.
Si on prend, on va faire un peu de mathématiques, ce que je ne sais pas faire. 128 pages divisé par 8.
Donc là, tu n'as plus qu'à le coudre.
J'ai plus qu'à le coudre. La machine à coudre, ça aussi. Ça se faisait beaucoup à la main. Et là.
Donc là, on est devant la machine à coudre.
Là, qui est une machine des années 30. Mais qui sont d'une fiabilité absolue. On va voir si je suis au bon format. Alors on prend les cahiers du livre un par un. On pose sur la papier. Et voilà. Alors là, je vais lentement parce que je suis pas chaud. Mais normalement, ça va plus vite. Il y avait des gens qui, effectivement, faisaient ça toute la journée. Dans les entreprises comme Ouverture à Rennes.
L'imprimerie où était ma grand-mère, notamment.
Ah ben oui, bien sûr, tiens, voilà. Oui. On a parlé souvent avec elle, oui. Elle travaillait sur le façonnage. Voilà. Alors, en fin de livre, on fait un coup à blanc qui va donner une espèce de cheminement du fil qui permet de repérer. Et après tout le livre, quand le plateau, il y a un plateau derrière la machine à coudre, on peut y avoir 25 ou 30 exemplaires attachés les uns aux autres. Donc le travail, c'est de séparer les livres des uns et des autres.
Et oui. Mettre la couverture.
La couverture, c'est-à-dire je prends un pinceau et de la colle. Voilà, du collage. Donc on a une. Donc je mets par exemple 5 ou 6 livres comme ça, un coup de pinceau. Et puis j'ai les couvertures qui sont toutes prêtes. Qui sont préformées avec ce qu'on appelle un rainage. Donc le dos.
Et là, c'est toi qui les as pliés, les couvertures?
Oui, les couvertures, ça se fait, le rainage se fait sur la machine d'impression. C'est-à-dire que là, on enlève tous les rouleaux encreurs et on met ce qu'on appelle des filets marqueurs qui vont marquer la couverture aux endroits où elle doit se plier. Voilà, c'est tout simplement.
D'accord. Bon, alors là, qu'est-ce que tu as cousu comme livre?
Je crois que c'est un texte de Jean-Paul Améry. Alors en fait, c'est un texte qui est publié depuis longtemps, mais qui est resté un peu en cours de façonnage.
Tu viens d'ajouter à ton catalogue?
Oh non, il est ajouté depuis un moment. Mais... Alors c'est pareil, moi je façonne au fur et à mesure, des besoins, quoi, en fait. Mais c'est vrai qu'en industriel, on va passer toute la chaîne, tous les livres.
Et là, c'est au gré de la demande.
Bon, au gré de la demande ou au gré des stocks. Je ne fais pas un quand on m'en demande un, mais quand il n'y en a plus, je fais une centaine. L'autre sujet, c'est la distribution du livre. Quoi. Alors soit on fait cette distribution soi-même, on passe vers les libraires, on crée des contacts avec les libraires qui nous connaissent. Ça, je l'ai fait pendant quelques années, aussi. Mais d'une part, c'est pas ce qui me passionne le plus, et je suis un très mauvais vendeur. Donc, et il y a les sociétés de diffusion, distribution, hein, qui assurent qu'ils prennent, vont prendre un catalogue de X éditeurs et qui, leurs représentants, passent dans les librairies et présentent les livres. Moi, ça va faire. Alors, ça, c'est toujours un peu le tendon d'Achille des maisons d'édition. Parce que soit on l'assure soi-même, et c'est vrai, qu'on arrive surtout dans ce type de production que j'ai, quoi, une production artisanale et en tirage limité, on arrive plus à placer plus de livres, bien sûr, mais ça prend énormément de temps. Et puis, je ne pouvais pas être partout, il y a la fabrication et la diffusion. Et donc, ça va faire à peu près plus de 25 ans que je travaille avec les Belles Lettres, l'édition des Belles Lettres, qui ont aussi une société de diffusion-distribution. Alors, c'est la distribution du livre actuellement, c'est vraiment le point le plus délicat. Parce qu'on arrive à un turnover des livres qui est absolument incohérent, insensé. C'est-à-dire un livre, on disait là, avant la durée de vie d'un livre en librairie, il était de 6 mois, il était d'un an, enfin, etc. Maintenant, on est en calcul de semaines, on n'est plus en calcul de mois. C'est-à-dire que ça se vend, ça se vend pas. C'est souvent traité par ordinateur, c'est-à-dire là, c'est la première cassure. C'est-à-dire que les gens qui vont gérer les stocks et les gens qui sont en rayon ne sont pas les mêmes. Donc les gens qui sont en stock, qui gèrent les stocks, ils disent « Oh ben tiens, il n'a pas bougé depuis tant de temps. » Donc ils savent pas ce que c'est. Alors, il y a quelqu'un dont je recommande beaucoup la lecture, c'est quelqu'un qui s'appelait André Schifrin, qui était un éditeur franco-américain, qui a dénoncé le nouveau fonctionnement de la distribution du livre et la concentration. Il a analysé tout ça, mais d'une façon toponymique, froide. Et qui montre qu'effectivement, plus la concentration se fait, plus tout un secteur du livre, dont la littérature, va se trouver exclu et dans des zones de plus en plus difficiles à atteindre. Voilà. C'est cette idée aussi de découverte, moi, qui m'intéresse. C'est pas aller courir ce que tout le monde va faire, mais avoir quelque chose un peu différent de la proposer.
À contre-courant des sentiers dominants.
Ou à contre-courant, ou dans les chemins de traverse. C'est pour ça que l'almanach poétique japonais, j'ai beaucoup aimé ce travail-là qu'on a fait avec... qu'Alain Kerverne a fait pour moi. Moi, je n'étais que le transmetteur. Parce que c'était la première fois que quelqu'un creusait l'idée du haïku, alors qu'on parle du haïku en France, etc. Bon, dès qu'un poème est court, on dit c'est un haïku, ce qui est absolument archi faux. Hein, donc, c'est aller découvrir aussi ce qui se cache derrière, et quelle civilisation est derrière. Et c'est ça qui est intéressant.
Hein. Mais alors, tant qu'on y est, la définition réelle du haïku?
C'est un court texte avec un mot de saison, qui est obligatoire, et 17 syllabes. Voilà. La définition des mots de saison, par exemple, si je prends Matin de neige qui est là sur la table, ben voilà, on a à chaque fois le mot de saison, l'explication du mot de saison et l'exemple du mot de saison idéal. Et c'est aussi quelque chose de très populaire. On va trouver le haïku dans les journaux de petites annonces. C'est un phénomène extrêmement social. Voilà, alors ça, c'est aussi une expérience intéressante. Alors autant j'ai fait des livres avec des artistes, des peintres, des graveurs et autres. Donc peinture, poésie, on a souvent eu ce lien. Poésie, musique, plus difficilement. Et là, c'est un compositeur, Anthony Girard, passionné de poésie, qui a créé des compositions classiques sur des auteurs que j'ai sur certains de mes textes, des auteurs que j'ai publiés, Isidore de Loos, Jean-Paul Améric, qui a été une aventure un peu folle, mais qui a mis entre autres d'ailleurs en jeu l'orchestre de Bretagne.
Tu m'annonçais tout à l'heure que tu allais petit à petit arrêter la typographie au plomb. Comment tu abordes du coup le glissement de la typographie au plomb vers l'impression numérique dont tu me parlais?
Qui est déjà là d'ailleurs, c'est un sujet qui me passionne parce que dans les débats autour du livre, on a souvent dit pas mal de bêtises, je dirais, et comme quoi le numérique allait tout changer, allait tout bousculer, ce qui pour moi est absolument faux. Il n'y a aucun problème, il y a toujours eu des bouleversements techniques dans l'imprimerie, et il y en aura encore d'autres. Il faut quand même pas oublier que au temps de la naissance de l'imprimerie au plomb, les copistes allaient dans les ateliers d'imprimerie pour renverser tout, parce que ça cassait leur métier. Bon voilà, le parallèle avec d'autres époques est facile à faire. Et puis il y a eu l'époque de l'imprimerie industrielle, on a dit ça y est, le livre est fini. Le numérique, c'est une nouvelle technique. Comment ça fonctionne? On a exactement les mêmes processus qu'à travail au plomb, qu'à travail la PAO, que le InDesign, etc. Le tout, c'est de voir concevoir le livre et de concevoir son architecture. Le livre, c'est une architecture. Donc à partir de ce moment-là, on va réfléchir sur ce que c'est. Et moi, je me souviens de Guy Lévis-Manot qui me disait, vous savez, dans un livre, ce qui compte, c'est les blancs. Donc, Voilà, comment vous avez travaillé ça? Et c'est vrai que le blanc dans une page, c'est la respiration. C'est aussi le repos de l'œil. Donc ça, c'est important. Ça permet aussi une mise en page, une mise en forme, disons, qui correspond à une esthétique, à un choix aussi sur le livre. Un livre de poèmes, on ne va pas le concentrer comme un roman. Un roman, c'est peut-être plus facile, apparemment, mais encore qu'il faut bien calculer les marges, il faut voir le rapport du caractère à la forme de la page. C'est tout ça qui se calcule. Donc que ce soit sur le plomb, ou sur l'ordinateur, c'est exactement la même chose.
D'accord, donc voilà. Tu peux rester aussi créatif avec le numérique ?
Absolument, et puis moi je crois que de toute façon le numérique est la nouvelle technique qui arrive, simplement il faut savoir la dominer, la maîtriser. C'est pas l'ordinateur qui va décider, c'est celui qui est derrière l'écran, et c'est celui qui a l'œil. C'est l'œil qui décide de la mise en page. J'ai publié sur un rythme d'une dizaine de livres par an à peu près, quoi. Là je vais passer au rythme de 3 ou 4 livres parce que ça va être plus lent. Mais moi, j'ai des livres avec des... Par exemple, là, j'ai un livre assez important avec un auteur luxembourgeois, Émile Hémen, dont ça va être le 100e anniversaire de la naissance, qui est aussi un haut personnage qui a une histoire particulière, puisqu'il a été enrôlé dans l'armée allemande, déserteur, après résistant. Voilà. Émile Hémen, c'est un nom que j'espère faire connaître en France un peu, il est un très très beau poète. Il est mort il y a quelques années, et là c'est le 100e anniversaire de sa naissance, donc on fait un livre un peu hommage, avec un peintre avec qui j'ai travaillé, Georges Le Bagnon, qui va mettre dans le livre plusieurs pastels.
Alors si vous souhaitez vous procurer un ouvrage du catalogue des éditions Follavoine, vous pouvez vous rendre en librairie à Rennes et aussi vous pouvez aller sur le site internet de la maison d'édition sur editionfollavoine.com, donc édition avec un S. Vous êtes à l'écoute de Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr. On poursuit cette émission estivale de Boulevanie avec de la musique. Et on commence avec un titre d'Anne Christ, chanteuse et poétesse brestoise des années 70. Alors pour les fidèles auditeurs et auditrices de Canal B, vous vous en souvenez peut-être, elle a fait un passage dans Crème de la Crème avec Yann le 25 janvier dernier. Yann l'avait invitée à l'occasion de la réédition d'un intégral de ses 5 albums qu'elle a fait paraître entre 75 et 86. Le podcast de cette émission qui contient l'interview d'Anne Christ est d'ailleurs disponible sur le site de Canal B. Je vous fais donc maintenant écouter le titre 27 rue Kernadeis, issu de son premier album sorti en 75 sur le label Neve Noé. Dans ce titre bouleversant, vous l'entendrez, Anne Christ évoque l'état d'une ouvrière brestoise qui sort d'une journée à l'usine et qui décrit sa fatigue abrutissante.
27 rue Kernadeis, 27 rue Kernadeis, je suis sortie de l'usine avec des yeux blessés qui aggravaient encore mon petit charme paumé qui séduit quelquefois. 27 rue Kernadeis, 27 rue Kernadeis, la nuit baigne la rue glauque comme un canal. Je me tiens debout sans pouvoir faire un pas normal, un seul pas qui soit droit. 27 rue Kernadeis, 27 rue Kernadeis, devant le chiffre livide j'ai rencontré une malouine belle avec des yeux violets à force d'être noire. 27 rue Kernadeis, 27 rue Kernadeis, surgi d'un autre point de la nuit, on a fait la rencontre d'un garçon beau comme un oiseau qui n'a pas eu honte de s'approcher pour voir. 27 rue Kernadeis, 27 rue Kernadeis, monsieur, je suis malade, monsieur, je veux guérir, monsieur, ramène-moi chez moi pour en finir, seulement chez moi, c'est où? 27 rue Kernadeis, 27 rue Kernadeis, monsieur, au fond de ma tête, il y a un bruit de train que j'imagine qui répète et répète le rythme de la machine. Ma tête est un train fou. 27 rue Kernadeis, 27 rue Kernadeis, je n'irai pas chez moi, c'est sûrement loin de tout. Et j'ai trop mal dans l'âme et j'ai trop mal partout, j'irai où tu iras. 27 rue Kernadeis, 27 rue Kernadeis, la femme dit bonsoir, la pâleur sur sa mine s'éloigne, ses fourrures, les mains sur mon blue jean, je m'ouvrais en éclat. 27 rue Canadais, 27 rue Canadais. C'est baisers ont le goût de ce café salé que l'on te sert après l'alcool pour te faire dégueuler cette nuit d'un hiver. 27 rue Canadais, 27 rue Canadais. Le râle de la nuit, c'est les temps qui reflètent le rythme de ce train fou qui crache au fond de ma tête, bousculant mes lumières. 27 rue Canadais, 27 rue Canadais. Je sors au matin blême, la rue dort encore, énorme et monstrueuse comme ces châteaux forts endormis dans l'espace. 27 rue Canadais, 27 rue Canadais. Il pleut, le signal de la charnière écartant le jour d'avec la nuit par les doigts dégoûtants d'une bruine qui poisse. 27 rue Canadais, 27 rue Canadais. Je me souviens qu'on était trois heureux presque aussi sûrement que je tourne en liberté dans la cage du temps et de la solitude. 27 rue Canadais, 27 rue Canadais. Je me souviens d'avoir aimé la vie presque aussi sûrement que je raille chaque jour sans m'en faire en attendant le sang qui ne vient pas comme d'habitude. 27 rue Canadais.
I was born into a world full of angels and kings, and there was some place to grow and someone to be. And even in the darkest of storms, you knew that the sun was still there. And even the horses had wings. It was that special kind of world, with its heart set on laughter. And a star was meant to be touched, and a dream to be after. And at the end of each day was the wonder of each night. And even the horses had wings. That was the world I knew as a child, and it can't be me that's changed. It's got to be the world, and somehow we can mend it, we can make it like it was, we can make it like it was before, when even the horses had wings. Dying in a world that will die before death, because angels don't exist and kings never laugh. And I'm afraid I've forgotten, I believe, that there really was a world where even the horses had. I meant to do, but it's been so long ago that I really can't remember what it was. Horses.
horses.
Et c'était Katie Bates avec le titre « And Even the Horses Had Wings » sorti en 1971. C'est en fait un morceau qui fait partie de la bande originale du film « Taking Off » de Milos Forman. C'est un film que je vous recommande au passage, qui met en scène une famille typique de la bourgeoisie new-yorkaise des années 70, complètement désemparée face à la fugue de leur fille de 15 ans, partie rejoindre les hippies de Central Park. Et on va poursuivre notre écoute avec un titre cette fois de la chanteuse anglaise PJ Harvey, issu de son dernier et 10e album « High Inside The Old Year Dying » sorti le 7 juillet dernier. Alors c'est un album assez brut et sensible qu'elle nous livre après 7 ans de silence. Elle a écrit cet album en 3 semaines et PJ Harvey a expliqué que ça avait été pour elle un moyen de se reconnecter à la musique. Et on écoute tout de suite le titre « High Inside The Old Year Dying ».
Poi lui dorme e ci sfugli sotto.
À l'instant Fabio Viscogliosi qui interprétait le titre Il nostro caro Angelo. C'est en fait une reprise d'un morceau de musique pop italienne des années 70 qui avait été écrite et chantée à l'époque par Lucio Battisti. Alors Fabio Viscogliosi ne fait pas que des reprises, c'est un musicien français né de parents italiens et il alterne d'ailleurs très souvent entre le français et l'italien dans ses titres. Je vous propose donc dès à présent d'écouter un autre titre de lui, Fabio Viscogliosi, et cette fois en français. On écoute La Plage, sorti sur son album Rococo en 2019.
J'aime ce décor, il me rappelle certaine époque et la mer. Il est encore tôt et les flammes du soleil lèche pas de trop, pas de trop près. Je lèche une glace et tes jambes si belles, si près, je les vois. Et toi, par la vague, une paire d'hippocampe, il campe sur la plage, je les vois.
were dressed in all blue with your fancy boots. Follow me in the crowd as the rain poured down. With your deck of cards and your star earring, red, red shine down like a golden crown. Red, red shine down like a whole. Up a magazine with you in it. Fall up, fall down, win it. Red, red, shine down like a golden crown. Red, red, shine down like a holy grail.
C'était la chanteuse new-yorkaise Airwaves avec l'irrésistible titre Star Earring. Vous avez d'ailleurs peut-être eu la chance de la voir en live lors de la deuxième édition du festival Pipe à la Pop en juin dernier. Vous êtes à l'écoute de Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr. Et on écoute cette fois un titre de la chanteuse Derya Yildirim qui a sorti en mars dernier un album pour enfants. Elle y reprend et réarrange des berceuses et chansons folkloriques turques. Elle y joue du baglama et est cette fois accompagnée par le clavier de Graham Mouchnik. On écoute le titre Atem Tutem Men Seni.
Atem Tutem Men Seni Şekerek Atem Men Seni. Akşam da ben gelende oy önüne atem ben seni. Akşam da ben gelende oy önüne atem ben seni.
Akşam ba ben gelende oy önüne atem. snatch up the Milky Way carrier. So be delicious, the beginning of the pressure is flavored all the way.
Vous aurez sûrement reconnu Fairy Tales in Yogurt avec le titre Shape Mistakes, qui donne son nom à son dernier album sorti en novembre 2022. Et c'est en fait Benoît Guchet qui se cache derrière ce nom pour ce premier album en solo. Benoît Guchet, donc musicien nantais connu dans le secteur puisqu'on l'a déjà vu ici dans Yes Basketball et Bantam Lions notamment. Et pour terminer cette émission de Boule Vanille, on va se quitter avec un classique, Angie, interprété par le guitariste écossais Burt Jansch sur son premier album en 1965. Allez, bonne écoute et à bientôt dans De Boule Vanille, votre rendez-vous estival sur Canal B, réalisé par les salariés, les animateurs et animatrices de la radio. Émission à retrouver du lundi au vendredi de 17h à 18h et du mardi au samedi de 8h à 9h. Retrouvez également les podcasts des émissions de Boule Vanille sur canalb.fr. Salut !